Sonia, je vous donne l'antenne en direct de la conférence de rentrée de France Inter. À demain, n'oubliez pas que vous êtes sublime.
Merci Augustin, le compliment va droit au cœur et à demain pour un nouveau boomerang. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant M donc, parce que pour la quatrième saison, nous sommes en direct du studio 104 où se déroule la conférence de rentrée de Radio France. Le président vient tout juste de terminer son discours, en tout cas on l'a forcé à arrêter. Daniel Morin fait des blagues avant, après et pendant. Pas question de réserver l'événement à nos amis journalistes qui sont venus nombreux. Avec nous donc et avec nous tous, puisqu'avec vous aussi, aux côtés de Laurence Bloch, directrice de France Inter. Bonjour Laurence.
Bonjour Sonia.
Laurence qui chaque année me demande l'émission Impossible. 7 invités en 10 minutes, c'est parti et c'est vous la première.
Voilà, alors moi je voudrais tout simplement dire que c'est la rentrée, ça tout le monde le sait, que pour moi en tant que directrice de France Inter, c'est la quatrième rentrée et je crois qu'il est temps que je fasse mon coming out.
C'est-à-dire ?
Je voudrais dire qu'à chaque rentrée, je suis absolument bluffée, mais vraiment bluffée, de voir l'énergie qu'il y a dans cette chaîne, de voir l'envie chaque fois, chaque fin août, d'inventer, de renouveler, d'imaginer, d'expérimenter. Je suis stupéfaite, et le mot n'est pas trop fort, je vous assure, de voir la rage de trouver le meilleur invité, hashtag Augustin Trapenard, Laura Adler, de trouver le meilleur habillage sonore, de trouver le meilleur angle pour le reportage et de trouver le meilleur canular de la rentrée, hashtag par Jupiter, Charlene Vanhoenacker, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Et je suis à chaque rentrée joyeusement étonnée, mais toujours étonnée de voir que cette exigence rencontre vraiment un succès populaire. C'est-à-dire que France Inter, tous les jours, rassemble 6 millions d'auditeurs et est leader sur tous les carrefours d'audience et qu'on peut réussir cette alliance entre exigence et succès. Et donc, en cette rentrée 2017, on ne lâche rien. On propose beaucoup de nouveautés à nos auditeurs, comme on le fait à chaque rentrée. On propose de nouveaux rendez-vous. Vous avez beaucoup de ces nouveaux rendez-vous autour de vous. Oui. Je vais simplement dire aux auditeurs, portez l'oreille sur le week-end. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. En particulier, l'émission de Vincent Josse, le Grand Atelier, avec une invitée rare ce dimanche, qui est Isabelle Adjani. Beaucoup de nouvelles signatures, parce que beaucoup de gens veulent rejoindre Inter. J'en cite trois. Claude Ascolovitch, Tanguy Pastoureau, Dominique Besnéard, beaucoup de nouveaux talents. Ça, c'est la marque de fabrique de France Inter. Et on garde notre humour, parce qu'il faut de l'humour, même le dimanche, avec une nouvelle émission à 17h confiée à Daniel Morin, dont j'attends le pire.
Ah non.
Le titre, c'est...
Vous serez servi.
Avec
le
tout
titre,
ce qu'il a balancé à l'antenne sur vos cheveux, Laurence, vous lui avez filé une émission.
Vous les femmes, et puis surtout l'excellence, la pétulance et l'intelligence du 7-9, qui pour moi est l'essentiel de la chaîne.
Vous les femmes.
Vous les femmes.
Vous les femmes. Vous les
Soyons
femmes.
Baroque.
Nicolas Demorand, Léa Salamé, le duo explosif du 7-9, c'est à vous Léa.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Je voudrais juste noter qu'on a tous reçu 10 textos hier pour nous rappeler de mettre du rouge. Et donc je note.
Suis en bleu.
Oui, et Antoine Decaune. Donc les filles ont respecté la règle, il y a du rouge un peu partout. Les hommes non.
On n'a pas reçu le texto,
voilà.
Nous. Hein.
Ouais, vous avez pas reçu le texto. Non, je voulais vous dire mon plaisir immense de partager cette année l'antenne avec Nicolas Demorand, qui est, même si c'était pas très vieux, ou en tout cas pas beaucoup plus vieux que moi, qui était pour moi, quand j'ai commencé le journalisme, celui qu'on appelait le Mozart de la radio, et c'est vrai qu'on le retrouve. Alors c'est vrai que la voix du 7-9 a changé, et c'est bien. C'est bien parce que ça nous force à nous remettre en cause, ça nous impose l'humilité, ça nous force à ne pas nous endormir, à ne pas rester dans nos pantoufles de numéro un, à nous mettre en cause et je trouve que c'est une bonne chose. Et puis je voulais juste vous dire en un mot que les Anchorman, les Anchorwoman, tout ça c'est très bien, mais la force et le succès du 7-9 d'Inter,
c'est l'équipe. Le générique.
C'est le meilleur générique sur la place de Paris et moi cet été, j'ai des gens qui sont venus me dire... Voilà, je me lève avec Rebecca Banzoni, je me brosse les dents sur Thomas Legrand, je rentre dans ma douche sur Charlene Vanhoenacker et j'attends le dernier mot de Bernard Guetta pour emmener les enfants à l'école. Et je crois que c'est ça qu'on a réussi à créer et j'espère que les auditeurs vont continuer à nous faire confiance et avoir envie de se réveiller avec nous, de se brosser les dents avec nous, de prendre leur douche avec nous et d'emmener leurs enfants avec nous.
Nicolas ?
Rien, pas mieux. Pas mieux.
Il y a ceux qui communiquent et il y a ceux qui bossent, c'est ça?
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Ça, c'est pas gentil.
Du tout.
C'était pas pour vous, Léa. C'est
Léa a tout dit. Moi, je suis très heureux de retrouver France Inter le matin. C'est totalement inédit. Et c'est avec un immense plaisir.
Un matinalier qui revient, une matinale.
Oui, c'est avec un immense plaisir, moi, que j'ai retrouvé des gens avec qui j'ai déjà travaillé il y a longtemps. Dominique Seux, Thomas Legrand, accueillir Mathieu Vidard, qui est l'une des nouvelles voix du 7-9 pour parler de science tous les jours de manière accessible. Rebecca Manzoni, évidemment, André Manoukian ce matin.
Asko,
à 8h30 pour la revue de presse. Donc, on est en train d'apporter quelques changements qui sont significatifs. On va essayer de continuer, comme le disait Léa, à être inquiet et à se remettre en question. Enfin, c'est formidable. Moi, je suis très heureux de retrouver le matin sur Inter et de bosser avec Léa.
Et pour
c'est
ce
cool.
qui est d'être inquiet, en règle générale, on vous fait confiance, oui, c'est Nicolas.
c'est quand même l'homme le plus angoissé que je connais.
Voilà, Mozart de l'inquiétude.
Le Mozart de l'angoisse demeurant salamé. Donc le 7-9 d'Inter. Fabienne Synthèse, vous reprenez au vol du coup le 18-20 de France Inter. Je rappelle que vous avez au compteur 4 années de matinale à succès sur France Info, après 6 années de correspondance à Washington. 18h, toujours l'actu internationale. 19h, le Telson, comme on l'appelle chez nous.
Exactement, le Telson avec un hashtag devant. D'ailleurs, ouais. un mot dièse ou un mot-clé, je ne sais plus. Nicolas m'avait donné la consigne, justement.
Mot-clé.
Ouais, je suis obligée de me le coller un peu sur un post-it. Mais vous avez rappelé ces 6 ans aux États-Unis. Vous savez, moi, je me promène un peu avec une sorte de mantra en bandoulière. Et depuis un bout de temps, c'est une phrase du vieux Dan Rather qui était sur CBS pendant presque 30 ans et qui disait « Le journalisme, c'est rendre intéressantes des choses importantes. Ouais. » Ben, c'est ça qu'on fait tous les jours dans le 18-20. Et ça nous ramène à poser simplement des questions simples quand le monde est parfois très compliqué. L'essence, elle est là. On reste effectivement international, exclusivement la première heure. On s'éloigne dans le téléphone sonne, mais pas vraiment, parce que l'un est toujours forcément en rapport avec l'autre. Et puis, il y a tous ces gens qui font le monde aujourd'hui et qu'on a vraiment envie de marquer à la culotte et de suivre réellement, parce que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent rejaillit sur le reste du monde. Un monde avec Trump, c'est pas le même monde qu'avant. Un monde avec Poutine, c'est pas le même monde qu'avant. Donc, on a envie d'aller chercher un peu derrière ces choses-là. Et notre travail, c'est suivre ceux qui font bouger au positif et ceux qui font aussi ébranler le monde en allant chercher les clés. Moi, j'ai un peu l'impression d'être le serrurier, je ne sais pas si on dit la serrurière d'ailleurs, enfin bref, de trouver des clés à l'intérieur de ce 18-19. Et en parlant de questions simples, il y a les miennes, bien sûr, et puis il y a celles des auditeurs. Vous l'avez cité, le Telson, c'est à la fois une vieille dame dans cette maison, le téléphone sonne, mais si c'est aussi un monument, quelque chose qui reste et qui doit rester, c'est précisément parce que ces questions simples qui sont les nôtres, c'est aussi les vôtres, c'est aussi celles des auditeurs, c'est celles aussi de tout le monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire donc pendant 2 heures. Je voudrais dire, moi aussi, l'énorme plaisir que j'ai à recommencer ici, à Inter, qui a été aussi ma maison il y a une petite dizaine d'années.
À passer chez les Rouges.
Et à repasser chez les Rouges, ouais. Il y a quelque chose d'assez vertigineux à recommencer, quelque chose de neuf. Moi aussi, je suis un peu dans la case angoisse, comme Nicolas, mais ce vertige-là...
Bienvenue.
Ouais, je t'en prie, vraiment, on pourra partager nos expériences. Ce vertige-là, il est délicieux, en fait.
Et voilà, Fabienne Synthèse, le 18-20 de France Inter, Antoine de Cône,
De Cône, ça marche aussi. Ouais.
Un borborythme, une onomatopée, c'est le 16h de France Inter. Pop,
c'est un titre qui raconte beaucoup de choses. Oui. Ça veut dire à la fois pop, merci, j'en ai assez, mais j'en ai pas assez, il m'en faut toujours plus. Ouais. Donc ça parle de tout ce qui tourne autour de la pop culture. En fait, c'est le monde vu par le prisme de la pop culture. Et pour rebondir sur ce que disait Léa tout à l'heure, moi, ma vie est ponctuée par France Inter. J'écoute France Inter depuis toujours. Par exemple, je prends ma douche avec Léa le matin, ce qui m'attire d'ailleurs quelques problèmes d'ordre conjugal. Et je suis ravi de me retrouver sur cette station. Parce que vraiment, elle fait partie de la bande-son de mon existence.
C'est
donc,
quoi
je suis
la pop culture, Antoine de Cône?
La pop culture, qu'est-ce
oui,
c'est que
quoi,
c'est
la pop?
Oh, c'est tout ce qui réunit la contre-culture, ouais. Une manière différente d'envisager la culture, c'est-à-dire en sortant des autoroutes de la consommation, en allant voir sur les chemins de traverse. Croyez-moi,
Pop. Donc, il faut qu'on s'y habitue.
Pop.
16h sur France Inter.
Il y a beaucoup
France
de percutants,
Inter.
Je sais, c'est dur à dire.
C'est pour essayer les micros, c'est Paris-Bordeaux-Le Mans. Hélène Roussel, c'est le le nouveau 5-7, c'est le nouveau réflexe du matin, c'est le 5h-7h de France Inter. Bonjour Hélène.
Bonjour, bonjour à tous. Donc un 5-7 un peu nouveau finalement, puisque voilà, moi j'attaque cette année après une petite période de journaux. Un 5-7 qu'on a envie énergique, qu'on a envie de, voilà, de quelque chose d'énergique, d'empathique, de convivial. C'est dur de se lever à 5h ou à 6h du matin. Donc voilà, on va essayer de vous accompagner, de vous prendre par la main. Pour ça, on a remis du direct dans cette tranche. 5h15, un coup de fil à l'autre bout du monde ou à quelqu'un en France, mais qui est déjà debout. Après le journal de 5h30, on a un débat de société, là aussi en live. Et puis 6h20, toujours l'invité en studio. Mais là, c'est une pause café. On s'arrête dans le tourbillon de l'info. On se pose et on essaye de comprendre. C'est l'instant décryptage. Et puis, il y a évidemment toujours le dernier quart d'heure très animé avec tout un tas de chroniqueurs. Daniel Morin, c'est quelque chose. Une table ronde du petit-déj. Donc, on rigole, mais on apprend aussi plein de choses. Conviviales, donc. Mais en même temps, vous voyez bien, c'est pas parce que c'est le 5-7, c'est pas parce que c'est tôt le matin qu'on a abandonné le contenu ni l'exigence. Voilà, c'est avant tout une tranche d'info.
C'est une tranche d'info. Merci, Hélène, le 5-7.
Et merci à toute l'équipe des présentateurs.
Comment arracher un micro qu'on vient de lui interdire.
Marc Fauvel à 8h, Amélie Perrier, nouvelle voix à 7h30, Agnès Soubiran.
Voilà. Et Bruno Duvic.
Ça, c'était Laurence Bloch, qui obéit encore moins que les autres. Merci
à vous. Et Charline Leroux qui va m'accompagner du jour.
Charline Leroux, car le prénom Charline n'est pas une marque déposée. L'Instant M continue avec une question politico-médiatique brûlante ce matin. Je sais, je remonte, j'ai moi aussi une émission à continuer. C'est pour ça que je vous passe un disque Over the Night, c'est des Australiens, il s'appelle Parcelle et ça me permet de grimper 5 étages. À bientôt, merci à vous tous. Sur France Inter.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Suite de ce trépidant Instant M, j'ai réussi, je viens de grimper 5 étages. Retour dans notre petit studio à nous avec Antoine Bayeux. Bonjour Antoine.
Bonjour.
On vous connaît d'ailleurs à Radio France puisque vous êtes l'ancien patron du numérique hein, à France Info. Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef numérique de Closer. La com numérique et la com politique, ce sont vos deux mamelles, vos deux passions. Quelques minutes pour soulever avec vous une question que de nombreux journalistes, et pas seulement, ce qu'on appelle les twittos, aussi les utilisateurs de Twitter, se sont posés hier. Notre confrère Bruno Roger Petit, éditorialiste à Challenge, est nommé porte-parole de l'Élysée. Et à l'instant où cette nomination est rendue publique, on s'aperçoit que son compte Twitter ainsi que son compte Facebook ont été effacés. Il n'est pas le seul à avoir procédé ainsi. Pourquoi ?
Alors, qui a déjà procédé ainsi ? Des politique. Ouais. C'est arrivé à Éric Besson, par exemple. En 2012, Éric Besson arrête d'être ministre, cesse d'être ministre. Et il était connu pour avoir fait une grosse erreur sur Twitter. Nouvelle vie, il se lance, il efface son compte Twitter complètement. Il le relancera quelques années plus tard, un petit peu en douce. C'est arrivé à quelqu'un qui s'appelle Benjamin Lancard, qui a été un jour patron des Jeunes Populaires. Puis Benjamin Lancard, il est devenu énarque, il a eu besoin de changer un petit peu de vie, il a pris de la licence avec la politique, et hop, pareil, compte Twitter supprimé.
C'est arrivé à Manuel Valls.
C'est arrivé à Manuel Valls également. Alors Manuel Valls, au moment où il devient Premier ministre en fait, il est déjà ministre de l'Intérieur, il n'a pas touché à son compte Twitter en tant que ministre de l'Intérieur. Donc sur son compte, à l'époque, Manuel Valls, ce qu'on voit, c'est toute son activité au moment de la campagne présidentielle et de la campagne des primaires également de 2011-2012. Donc ça veut dire qu'il lançait des petites piques à quelqu'un qui s'appelait François Hollande à l'époque.
Par exemple.
Et donc au moment où il arrive à Matignon, bah là il récupère un petit peu des moyens. Et là je pense qu'il y a quelqu'un qui lui conseille, qui lui dit, écoute Manu, peut-être falloir faire
donc
gaffe.
Donc aujourd'hui il n'y a plus un conseiller en communication politique qui laisse un politique entrer dans la lumière, entrer dans l'arène, sans effacer son compte Twitter, Antoine Bayet.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
C'est quelque chose qui a été recommandé à l'époque à Manuel Valls, très très sincèrement, c'est quelque chose qui a valu un petit retour de bâton à Manuel Valls, puisque pas mal de monde avait fait des captures à l'époque des tweets de Manuel Valls.
Et donc ils sont ressortis.
Et donc ils sont ressortis à cette époque-là.
Est-ce qu'il n'y a pas pire, justement, Antoine Bayet, que le tweet qui ressort alors qu'on a voulu l'effacer ?
Ah, ça, effectivement, c'était désastreux. Ça n'arrive pour l'instant pas à Bruno Roger Petit, notre ancien confrère, effectivement, qui est désormais porte-parole de l'Élysée. Personne n'avait vraiment fait de capture de ces tweets, mais il reste quelque part ses écrits aussi. Il reste ses interventions télé. Il a fait beaucoup de plateaux. Il a fait beaucoup de d'émissions sur ici à France Inter, à France Info, etc.
Alors,
et sa parole, elle va ressortir.
Bah oui, justement. Et c'est pas n'importe quelle parole, Antoine Bayet, celle de Bruno Roger Petit. C'est quelqu'un qui a un caractère extrêmement trempé dans l'acier. Il est connu pour ses tweets acerbes sur le foot, sur la politique, pour ses coups de gueule. Il est capable de tailler en pièces ses adversaires. Donc c'est pour le coup, c'était une parole extrêmement libérée.
C'était une parole extrêmement libérée et très incarnée.
Ouais.
Et quelque part, cette idée, il y a quelque chose de très inédit dans le communiqué de l'Élysée qui annonce la nomination de Bruno Roger Petit comme porte-parole. Ce qui est inédit, c'est qu'on dit qu'il portera la parole présidentielle par tous les moyens, y compris sur le compte Twitter de la présidence de la République. C'est la première fois qu'on voit ça. Est-ce que ce compte, ça veut dire qu'il va, lui, depuis son petit téléphone, poster des tweets ou pas ? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Est-ce qu'il va mettre en scène la parole de l'Élysée sur ce compte ? Peut-être. Ça peut être cette piste-là.
Est-ce que c'est pas une façon, surtout, de réoccuper un espace que, finalement, la Macronie a pas si bien occupé que ça face au suractivisme, on va dire, des mélenchonistes ou des lepénistes sur la twittosphère, qui eux sont très 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 nombreux d'abord, et puis très bien organisés.
Mais qui sont très bien organisés, mais qui produisent aussi beaucoup de contenu.
Ce
ne sont pas que des incarnations, les figures aujourd'hui de la France insoumise sur Twitter. Il y a évidemment des incarnations, il y a des personnes très fortes, les porte-parole, Jean-Luc Mélenchon qui a critiqué Bruno Roger Petit d'ailleurs hier, comme quoi il surfe très rapidement sur les sujets qui montent également. Mais aujourd'hui, la France Insoumise sont aussi des contenus qui circulent beaucoup. La France Insoumise réussit un truc qui est complètement dingue a priori, c'est qu'ils réussissent à faire consommer, regarder en masse des interventions à l'Assemblée nationale. Il y a une expertise dans la fabrique des contenus aujourd'hui, de leur côté, qui est très
forte. Donc on découpe
forte.
La vidéo, on la poste, on la met en scène, etc. On la pousse, on la porte.
Exactement.
Je vais vous demander un dernier mot, Antoine Bayet, sur ce réflexe qui consiste aujourd'hui à effacer ses tweets avant d'entrer dans la lumière. Est-ce que, à votre connaissance, les journalistes aujourd'hui essayent de prendre leur devant ? Est-ce que les journalistes archivent ? Est-ce que les journalistes traquent ? Justement.
Bien sûr, c'est tout à fait quelque chose qui est possible. Sur des personnalités publiques, on peut très facilement sauvegarder l'intégralité de la timeline des tweets postés par quelqu'un.
Et ça devient un réflexe.
Bien sûr que ça,
oui, ça, devient
ça,
un réflexe.
Ça devrait devenir un réflexe. Et dans le cas de personnalités publiques, c'est encore plus surprenant que ça puisse arriver que l'on supprime des tweets. Aujourd'hui, aux États-Unis, je vous renvoie au débat aux États-Unis où il y a un débat autour de Donald Trump. Peut-il supprimer ses tweets ? Le président de la République peut-il supprimer des tweets, etc. Bah, à nous journalistes, d'être un petit peu malins et de effectivement prévoir lorsque des personnalités sont appelées à prendre un premier rôle, ça puisse arriver. Et je vais vous confier que Bruno Roger Petit, hier, moi, lorsque l'annonce de sa nomination a été faite
elle
est d'abord sortie au conditionnel par le tweet d'une journaliste de RTL, etc.
Et vous vous êtes rué sur le
compte. Et je m'en veux terriblement de ne pas avoir sauvegardé la timeline à ce
moment-là. Merci beaucoup Antoine Baillet pour votre intervention. C'est la fin de ce demi-instant même après cette conférence de rentrée. Mon Dieu que ça a été speed, mais on est quand même réussi. Allez réveiller un tout petit mot sur l'émission.
Et si la classe maternelle était la classe la plus importante du cursus scolaire, 01 45 24 7000.
Ce sera juste après les infos.